Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Plus lourd, plus grand, plus puissant, Emmanuel Macron annonce la construction d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. Toujours pas de budget. Une loi spéciale doit donc être examinée ce soir au Conseil des ministres pour permettre aux administrations de continuer à fonctionner. La mobilisation des agriculteurs, elle est en perte de vitesse. Mais sur l'A64, le blocage subsiste. Des dizaines d'irréductibles comptent bien y passer les fêtes.
Emmanuel Macron donne le coup d'envoi de la construction d'un nouveau porte-avions.
Prévu pour remplacer le Charles de Gaulle, il doit entrer en service en 2038. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État hier depuis le Noël des troupes à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, a déclaré Emmanuel Macron, pour justifier donc la construction de ce porte-avions adapté, Romain Houg, aux nouveaux risques.
Oui, un porte-avions plus lourd, plus grand et plus puissant. Il devrait faire 310 mètres de long, soit 50 mètres de plus que le Charles de Gaulle et pesait 78 000 tonnes, presque le double du porte-avions actuel. L'équipage, lui, ne change pas. 2000 personnes au total, conçu par Naval Group. Il sera construit à Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique. Une construction colossale qui va nécessiter l'intervention de pas moins de 800 entreprises, dont 80% sont des PME. Emmanuel Macron devrait se rendre sur place en février prochain. Ce PANG, pour porte-avions de nouvelle génération, est un édifice qui pourra accueillir tout type d'aéronefs, avions radars, hélicoptères, drones, et sera équipé de catapultes électromagnétiques pour lancer les avions de combat du futur, plus lourds en carburant et en armement. L'activité sera aussi plus dense, il sera possible d'atterrir et de décoller en même temps depuis le porte-avions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de quoi asseoir la puissance militaire de la France qui, avec les États-Unis, est l'un des deux seuls pays à posséder un porte-avions à propulsion nucléaire.
Un porte-avions qui va coûter 10 milliards d'euros, une somme adoptée malgré l'impasse budgétaire. Faute de compromis, le gouvernement prépare donc cette semaine l'adoption d'une loi spéciale. Elle doit permettre aux administrations publiques de rester fonctionnelles. Les discussions reprendront après le nouvel an. Hélène Terzian, l'objectif du gouvernement, c'est qu'un budget soit voté avant la fin janvier.
Oui, c'est le message martelé par la ministre du Budget. Amélie de Montchalin appelle à ne pas se contenter d'un service minimum. Ce service minimum, c'est cette loi spéciale qui sera présentée ce soir en Conseil des ministres avant d'être votée par les deux chambres. Une rustine qui permet de ne pas paralyser l'État. Mais pour que la France se dote d'un vrai budget, comme le dit la ministre, avant la fin janvier, il faut un compromis. Et elle prévient, y compris avec quelques hausses d'impôts. Députés et sénateurs n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, le Premier ministre reprend la main en consultant les forces politiques hier, les chefs parlementaires du bloc central, aujourd'hui la droite, les socialistes, les écologistes. Parviendront-ils à un consensus ? Pour l'instant, l'exécutif renonce toujours à utiliser le 49-3 réclamé par des ténors du bloc central et de la droite.
Un épisode Cévenol traverse le sud de la France. 6 départements en vigilance pluie, inondation ou crue ce matin. Parmi eux, 2 concernés par un risque de neige verglas. Il s'agit de l'Aveyron et du Tarn. Dans le sud-ouest d'ailleurs, où se poursuit la mobilisation des agriculteurs. De moins en moins de barrages au niveau national. Mais le mouvement, il est donc en perte de vitesse. Sauf sur l'A64, où le barrage est actif depuis 11 jours. Les agriculteurs protestent contre l'abattage massif des bovins. Dès le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse. Et Léonie Guilbeault, malgré l'ultimatum de la préfecture, il compte bien rester là.
Perchés sur leurs escabeaux, les agriculteurs accrochent des décorations de Noël un peu particulières sur leurs sapins.
Il y a plusieurs styles de lacrymo, t'as ceux-là, t'as ceux avec le canon.
Des grenades lacrymogènes en guise de boules de Noël.
Plutôt que de les laisser dans la nature, ben, on les accroche au sapin. C'est le cadeau qu'on nous a offert, alors on en profite.
Hein. Des lacrymos qui ont servi en Ariège lors d'affrontements entre forces de l'ordre et agriculteurs il y a une dizaine de jours. Le message est donc clair.
Nous, on est déterminés. Nous, en tout cas, on ne bougera pas.
Malgré l'ultimatum de la préfecture, Jérôme Bail insiste.
Avec le mouvement de soutien social qu'il y a, s'ils sortent les agriculteurs de force des autoroutes, je pense que les fêtes de fin d'année vont être vraiment chaotiques.
Le fonds d'urgence de 11 millions d'euros promis ce week-end par le Premier ministre ne suffira pas.
C'est encore un effet d'annonce. On prend de l'argent sur un moment, mais ça ne nous permet pas de sortir la tête de l'eau. Quoi.
Florent est éleveur.
Quelques aides supplémentaires, c'est pas réellement ce qu'on cherche. On cherche juste à vendre nos produits au juste prix. Quoi.
Les ultras de la 64 sont prêts à passer les fêtes sur les blocages. Des prêtres se sont déjà portés volontaires pour y célébrer une messe de Noël.
7h05 sur RMC, Marseille, à nouveau endeuillé. Un jeune homme de 22 ans tué par balle.
Samedi soir, moins d'une semaine après la visite d'Emmanuel Macron venu dans la cité phocéenne pour renforcer la lutte contre le narcotrafic. Un autre jeune a été lui blessé et Anna Jaujard, une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée. Oui, c'est vers 21h samedi soir dans le quartier du Mail, dans le 14e arrondissement de la ville, que le jeune homme de 22 ans a été touché d'au moins 5 balles de Kalachnikov. Il est mort sur place. Il était connu des services de police pour usage de stupéfiants. Une heure et demie plus tard, un autre homme blessé par arme à feu se présentait aux urgences, disant avoir lui aussi été victime de la fusillade. La voiture dans laquelle circulait le ou les tireurs a été retrouvée, brûlée quelques kilomètres plus loin. La victime était le neveu d'un des bénévoles de l'association Conscience, fondée par le militant anti-narcotrafic Amine Kessassi. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, l'association exprime toutes ses condoléances aux proches et dénonce l'engrenage meurtrier qui continue de frapper nos quartiers. Une semaine après l'attentat antisémite qui a fait 15 morts à Sydney, le Premier ministre australien présente ce matin ses excuses à la communauté juive du pays. De nouveaux documents dévoilés par la police affirment que les deux assaillants, un père et son fils, s'étaient entraînés en Australie avant leur passage à l'acte.
Et puis football, Lyon, dernier qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France.
Oui, l'OL s'est imposé 3-0 face au Petit Poussé et son voisin Saint-Cyr Collonges. Mais malgré la défaite, le club de Régional 1 avait quand même de quoi se réjouir, Aurélien Tiercin.
Une fête des voisins, une vraie, une fête de famille même, puisqu'à Saint-Cyr, supporters, joueurs, tous sont fans d'abord de l'Olympique lyonnais.
De toute façon, on était contents quel que soit le résultat, donc c'était une belle fête, effectivement.
C'était une très belle fête, c'était très réussi de la part des deux clubs, et merci l'Olympique lyonnais, et merci Saint-Cyr.
Walid Zemouri a beau avoir 36 ans, le défenseur de Saint-Cyr a vécu le plus beau moment de sa carrière.
C'est notre club, on joue dans notre ville, devant nos supporters et les supporters lyonnais, c'est un rêve pour tout le monde. Ça va rester dans nos têtes, hein. On pourra dire qu'on a fait douter l'Olympique lyonnais.
Kalis Mera, côté OL et lyonnais de naissance, s'est régalé de jouer contre ses propres supporters.
Si on n'aurait pu pas les jouer pour qu'ils aillent plus loin, bah, ça aurait été mieux. Mais bon, on prend les équipes qu'on nous donne. Mais bien sûr, voilà, de jouer contre des supporters de l'OL, bah, ça fait plaisir.
Mais la magie de la Coupe de France est malheureusement déjà finie pour le capitaine Saint-Cyro, ses coups soirées.
Ouais, on va profiter de la soirée avec les amis et la famille. Et demain, 8h bureau. Hein.
Ses coups soirées très matinales, donc, puisqu'avant d'être footballeur, il est d'abord cheminot à la SNCF.
À la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc, le pays hôte, a réussi son entrée dans la compétition en battant les Comores 2-0 en match d'ouverture. La 35e CAN à vivre sur RMC Radio officielle de la compétition, avec des matchs en direct et l'afterfoot délocalisé à Rabat au Maroc tous les soirs à partir de 22h.
Merci Rachel, c'était le journal donc de Rachel Saadedine. Il est 7h08, vous êtes nombreux à nous appeler au 32C sur sa question, faut-il ou non mettre des iPhones entre les mains de nos enfants. Alors il y a la question des plus jeunes et puis il y a la question de ceux qui entre 18 et 25 ans commencent désormais à avoir des amis virtuels. Bonjour Fantine.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Fantine? Vous invitez
à... Vous saviez comme je suis ravie de vous voir. Je suis une fan absolue.
Eh ben c'est très très sympa.
Et j'admire votre professionnalisme et votre rôle de maman.
Eh ben c'est sympa. Merci Fantine. Justement, on va parler du rôle de maman et c'est souvent difficile. Je crois que vous avez trois garçons, c'est ça?
Oui, trois garçons.
Qui ont quel âge?
Beaucoup de testostérone à la maison. Entre 18 et 21 et 23.
18, 21, 23. Et vous êtes parfois inquiète de la place que prennent les réseaux sociaux dans leur vie?
Inquiète, le mot est faible. Je suis terrorisée.
Terrorisée? Pourquoi? Ça se manifeste comment?
Parce que j'ai pas... En fait, comme il me le dit souvent, maman, t'es du siècle dernier. Oui. Mmh. Moi, j'appelle ça un bracelet électronique, le téléphone.
Ah ouais. Tellement ils en sont dépendants, en fait.
Ben, j'ai mon grand, il n'a pas d'amis. C'est son téléphone, son gamer. Il a payé un gamer à 1 400 € quand même, faut le faire.
Ah ouais.
Là, il rêve d'acheter un iPhone à 1 500. Je lui dis que c'était lui ou moi. C'est-à-dire que c'est soit il achète le téléphone et je pars de la maison.
Oui.
Comme il a besoin de moi.
C'est ça. C'est voilà. Pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Normalement, c'est lui qui, à un moment, doit sortir du nid. Mais effectivement, c'est difficile. Et lui, il en est satisfait, il ne s'en plaint pas.
Mais il me dit, t'es à la masse, TikTok c'est génial, l'IA c'est génial, ChatGPT c'est génial, mais je lui dis, mais t'as pas de cerveau. Je veux dire, on n'a pas besoin d'une machine pour réfléchir à sa place. Quoi.
Ça veut dire que dans la vie réelle, si je puis me permettre, entre guillemets, il n'a pas de, il a pratiquement plus de vie sociale.
Mais il n'en a aucune, il ne va pas au cinéma. Il ne sort pas, c'est travail, maison, jeu.
Il fait quoi dans la vie comme travail, Fantine?
Il est dans la grande distribution.
D'accord, donc il bosse, il gagne sa vie, ouais. Ça par contre. Mais en effet, tout part dans le gaming, les iPhones.
Ah oui, dès qu'il a une prime, ben, l'an dernier c'est la PS5. Cet été c'était le gamer. Et là, son rêve, c'est 1 500 € un iPhone. Je lui dis, tu montes en l'air et tu descends, tu ne l'auras pas. Il faut être fou. J'ai deux autres garçons. J'en ai un deuxième qui va être beaucoup plus sportif parce qu'il est éducateur sportif.
D'accord.
Et comme il me dit, je regarde mon temps de jeu, je suis celui qui joue le moins. Mais lui, il a une vie sociale extrême.
Oui, parce que lui, pour que le coup, il a une activité qui le sort de la maison.
Ben oui, mais en plus, tous les samedis soirs, il est en boîte, il a des copains, il vient à la maison.
Et qu'est-ce qu'il dit de son grand frère? Qu'est-ce qu'il dit de son grand frère?
Il dit qu'il est débile.
Ah, bon. Oui, ça va pas aider. Et le dernier, alors?
Le dernier, c'est un enfant différent. Je n'aime pas le mot handicap. C'est un 10 total qui est en IME.
D'accord.
Et j'ai appris cette année, vraiment, j'étais heureuse, que dès qu'il arrive le matin, il dépose son téléphone. D'accord. Et le soir, il le récupère. Il a 18 ans.
D'accord. Donc, il y a des moments dans la journée où il est effectivement sans le téléphone.
Ah, mais lui, c'est un drame pour lui. Mmh. Il dit, ouais, c'est pas gentil, tu te rends compte, il nous confisque.
J'ai presque l'impression que dans votre vie, il y a le téléphone, le smartphone, les réseaux sociaux, ça prend une place énorme en fait.
Non, mais je me bats avec eux parce que comme je suis une ancienne professionnelle de santé,
vous les éduquez seule, Fantine?
Oui, depuis 15 ans. C'est pas facile. Et l'époque est, je les plains parce que je pense que la Covid, elle a fait beaucoup beaucoup de dégâts sur les gosses. Et puis, je veux dire, il y a Netflix, il y a ci, il y a ça. On leur donne tellement de choses.
Sans avoir besoin de sortir.
Voilà, moi je disais quand j'étais petite, j'allais à la bibliothèque, quoi. J'allais jouer dans la forêt avec mes frères et sœurs.
D'un siècle dernier, Fantine, il vous répondrait. D'un siècle dernier. Mais en même temps, on sent vraiment.
Maman, tu t'es arrêté au siècle dernier. Ça. Ils m'ont dit, tu veux que je te fasse un compte TikTok?
Tout est une question d'équilibre. Mais en tout cas, votre témoignage, il est très très précieux. Merci beaucoup, Fantine. Joyeux Noël à vous, à vos trois enfants. Et comme Fantine, vous n'hésitez pas. Et puis venez dialoguer aussi avec elle. Vous nous appelez au 3216. Il est 7h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Pas de budget, pas de guichet. Voilà ce qu'a annoncé hier le ministre du Logement. Faute de compromis sur le budget, l'aide à la rénovation, ma prime rénov, va à nouveau s'interrompre dès le 1er janvier. Bonjour Marc Sanchez.
Bonjour.
Vous êtes le représentant des indépendants, des TPE. Très mauvaise nouvelle pour le secteur du bâtiment qui n'avait pas besoin de ça, on peut le dire. Et c'est votre parti pris. Dans un instant, vous qui nous écoutez, qui travaillez dans le secteur du bâtiment, qui êtes vous-même artisan, indépendant, appelez-nous pour témoigner au 3216, 7h13.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h16 sur RMC et à la télé sur RMC Story. Très bon réveil à tous. La France n'aura donc pas de budget le 1er janvier prochain. Et conséquence immédiate, certains dispositifs comme ma prime rénov vont s'interrompre, purement et simplement. Bonjour Marc Sanchez.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises, et notamment les artisans, le bâtiment. Grosse difficulté à venir. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes en colère?
On est surtout en colère, surpris, on s'y attendait un petit peu, vu les tergiversations majoritaires dans le cadre du vote de ce budget. Mais effectivement, aujourd'hui, le sentiment, c'est plus un sentiment de colère, parce que l'annonce qui a été faite par le ministre du Logement hier, elle n'est pas liée à une problématique budgétaire, elle est vraiment liée à une décision qui, en fait, impacte nos entreprises, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de majorité pour pouvoir voter un budget qui est essentiel aujourd'hui pour parfois.
Alors,
même
je dirais qu'il y a quand même un peu des deux, parce que si on est tout à fait honnête, elle avait déjà du plomb dans l'aile quand même, ma prime rénov, hein. Entre ça a été interrompu, repris, on sent bien qu'il y a plus derrière une sorte de volonté solide quand même, hein.
Oui, oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Le seul point qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est que on est un petit peu à l'heure des bilans. Aujourd'hui, l'activité du bâtiment, notamment au niveau des TPE, elle est en recul en 2025 de 3 à 4%. La prime rénov, en fait, au moment où le logement neuf est en train de s'effondrer, était quand même un élément qui permettait à beaucoup de TPE de tenir un petit peu la tête hors de l'eau. Alors malgré le fait aussi qu'elle ait déjà été suspendue cette année, pendant l'été notamment.
Elle a été suspendue 6 mois, elle a enfin arrêtée 3 mois cet été pour des raisons budgétaires, à nouveau là, donc effectivement ça fait 2 suspensions en 6 mois quand même.
Oui, tout à fait. Le problème c'est qu'elle avait aussi entraîné donc mécaniquement des devis gelés, des chantiers qui étaient reportés, des trésoreries aussi qui étaient sous tension et des décisions en termes d'emploi qui étaient plutôt difficiles à prendre pour nos dirigeants de TPE. Donc les conséquences en fait immédiates, ça va être de repartir dans un schéma de difficultés sur 2026 dans un secteur d'activité qui quelque part aujourd'hui, si j'étais optimiste, je vous dirais qu'il est en fort ralentissement, mais malheureusement le nombre de faillites que nous risquons d'avoir cette année, qui risque d'être record, aura pour conséquence aussi d'impacter ce type d'entreprise.
Alors MaPrimeRénov, pour autant, donc non seulement il y a eu cette incertitude, cette suspension, cette reprise et à nouveau cette suspension, mais par ailleurs il se trouve qu'elle a de toute façon réduit son champ. Aujourd'hui seuls les logements en E, F et G sont éligibles pour 32 000 euros maximum, alors qu'il y avait moins de plafond. Donc ça veut quand même dire globalement que ça sent la fin, non ?
Oui, ça sort la fin, peut-être, de ce point de vue-là. Après, la question, c'est de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut effectivement aujourd'hui engager des politiques en termes d'urbanisation, notamment des logements d'habitation, qui soient effectivement proactives en termes d'écologie, en termes d'économie d'énergie, etc., etc. Enfin, tout est une question de choix politique aujourd'hui. On nous annonce effectivement, alors c'est pas la même chose, mais on peut le comparer, qu'on trouve des moyens pour sortir un porte-avions qui va coûter plus de 10 milliards d'euros. Et effectivement, sur ces éléments-là, on est aujourd'hui dans certaines difficultés budgétaires. Donc c'est une question de priorité. Ce qu'on peut considérer, c'est qu'effectivement aujourd'hui, pour cette majorité, ou pour le Parlement de manière générale, les TPE du bâtiment, ce sont pas une priorité.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a une question de où est-ce qu'on met les sous. En ce moment, la défense est plutôt privilégiée sur des fonctionnements comme sur des dispositifs comme le vôtre. Après, si on est tout à fait honnête, et c'est vraiment la question que je me pose à chaque fois, Marc Sanchez, c'est cette question quand même. Est-ce que le bâtiment désormais et pendant combien de temps doit vivre sous perfusion?
Non, on demande pas d'être sous perfusion. On demande en fait une constance dans les politiques qui sont appliquées. Je vous dirais même, pour être un peu provocateur, que le fait d'avoir une aide en fait pour les ménages, qui puisse effectivement être moins importante, mais s'inscrire dans une certaine stabilité, ça serait peut-être mieux.
Oui, à la limite, moins d'aide, mais plus lisible et plus constance, ça serait tellement mieux pour vous.
Ah ben clairement, parce que là aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec des dossiers qui sont en cours, qui ont été acceptés, alors qui vont être payés, mais on ne sait pas quand. Donc du coup, ça va entraîner des impacts sur l'engagement de chantier, le fait de savoir quand les entreprises vont pouvoir être effectivement remboursées, le fait de créer aussi des indécisions fortes au niveau des ménages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous décidez de lancer ce type de projet en rénovation de votre habitation principale, et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez effectivement dans une situation de blocage, d'arrêt. Enfin, on est un petit peu dans une espèce
la très, très grande difficulté, effectivement, à se projeter. On trouve tout déjà très compliqué, mais alors, effectivement, on rajoute pour vous cette incapacité à pouvoir être sur le long terme avec MaPrimeRénov. Je poserai la question tout à l'heure à Philippe Juvin, il est rapporteur général du budget. Les conséquences très concrètes de cette loi spéciale parce qu'il n'y a pas de budget, parce que la France n'aura pas de budget effectivement à Noël. Merci en tout cas Marc Sanchez, bon courage à vous, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises. 7h21 et c'est Arthur Chevalier qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, Emmanuel Macron a annoncé la construction, on en parlait à l'instant, d'un nouveau porte-avions pour la France. Notre pays est l'un des précurseurs dans ce domaine.
Et oui, nous sommes parmi les premiers à avoir inventé le principe du porte-avions, hein. Et la France a déjà eu 8 porte-avions, ce qui est énorme. C'est clairement ce qu'on sait faire de mieux.
Et vous nous en remontez le fil et l'histoire dans un instant. Ne bougez pas, on vous attend dans 30 secondes sur RMC. Il est 7h22.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22, vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story, canal 23. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, depuis hier, Emmanuel Macron est aux Émirats Arabes Unis avec les troupes françaises et le président de la République a annoncé la construction d'un nouveau porte-avions.
Et oui, pour l'instant, son nom de code à ce porte-avions, c'est le PANG, hein, P-A-N-G, les initiales pour porte-avions de nouvelle génération. Sa mise en service est prévue pour 2038 et donc il remplacera poste pour poste notre navire amiral actuel, le Charles de Gaulle.
D'autant que la France est très performante dans le domaine des porte-avions.
Ah, et nous sommes même précurseurs. On est parmi les premiers à avoir imaginé quelque chose qui ressemblait plus ou moins à un porte-avions. Puisque au début du XXe siècle, on a une idée. On prend un bateau normal, un aviso, c'est un petit navire de guerre. On le bricole un peu et on ajoute une piste de décollage sur la proue, une petite piste. Et en 1910, on arrive à faire décoller un avion de ce bateau. C'était rudimentaire, mais l'idée était là. Utiliser les avions pour aider la marine. Alors attention, on ne savait que décoller, pas encore atterrir sur le bateau.
De quand date le vrai premier porte-avions ?
De 1917, Apolline. Et là, on est complètement dépassé par la Royal Navy anglaise. Ce premier porte-avions s'appelait le Furious. Alors en réalité, c'était un ancien paquebot où on avait aménagé une immense piste d'atterrissage. À cette époque, les avions qui décollent n'ont pas encore de fonction combattante. Ils sont surtout utiles pour les missions de reconnaissance. Le premier porte-avions français, lui, est mis en service en 1920. Il s'appelait le Béarn. Il mesurait 180 mètres de long pour 25 000 tonnes et il pouvait transporter 40 avions.
Quand est-ce que les porte-avions commencent à vraiment faire la différence ?
Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, et là, c'est au tour des Américains de prendre le dessus. Ils vont donner aux porte-avions ces lettres de noblesse pendant une guerre qu'on appelle la guerre du Pacifique. C'était contre les Japonais. Pour la première fois, on met les porte-avions au cœur de la stratégie navale. Ces monstres d'acier deviennent de véritables bases flottantes qui permettent en fait à une armée de se projeter très très loin de chez elle, ce qui évidemment donne une grande autonomie et ça change radicalement le visage de la guerre.
Au total, la France a eu combien de porte-avions ?
8, et c'est énorme pour un pays de notre taille. Alors il n'y en a que 3 en fait qui étaient des vrais porte-avions au sens où on l'entend aujourd'hui. Les deux premiers ont été lancés dans les années 1960, c'était le Foch et le Clémenceau, c'était quasiment des jumeaux. Ils vont naviguer jusqu'à la fin des années 90, où ils seront donc remplacés par le Charles de Gaulle.
Une des grandes réussites de l'industrie de l'armement français.
Eh oui, on le dit pas assez, Apolline, mais le Charles de Gaulle, c'est un des bateaux de guerre les plus performants du monde. 40 000 tonnes, 260 mètres de long, 2000 hommes d'équipage. Tout ça avec une propulsion nucléaire, ce qui démultiplie la puissance et l'autonomie. Les seuls pays à avoir des porte-avions nucléaires, c'est les États-Unis, ils en ont 11, et la France, donc c'est un club très fermé. Nous ne sommes que 2, et vous voyez, la barre est placée très haut pour le Pang.
Et on sent que vous aimez ça quand même, on peut le
j'adore
dire.
J'adore ça.
Vous avez vous-même un petit peu navigué sur un porte-avions, non ?
J'ai moi-même navigué, pas sur un porte-avions, mais à côté du porte-avions.
Du porte-avions. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, passionné de la marine. Le jeu, parce que c'est... It's time ! C'est déjà Noël sur RMC. Aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5, des Switch 2 avec Micromania Zing et plein d'autres cadeaux à découvrir donc jusqu'à mercredi dans notre magnifique calendrier de l'Avent. Vous voulez venir ouvrir une case du calendrier avec moi, ce sera à 8h20 en direct. Donc vous envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16, c'est déjà Noël sur RMC. Le gagnant donc sera en direct à 8h20. J'ai déjà hâte, il est 7h20. 26, bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, on passera un coup de fil à un moniteur de ski, début des vacances de Noël. Et bonne nouvelle, il neige sur une bonne partie des domaines skiables. Et puis 7h40, quelques jours après le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, nouvelle victime du narcotrafic ce week-end. Deux hommes pris pour cible par des tirs de Kalachnikov. L'un est décédé sur place, l'autre est blessé. Un nouveau grand plan anti-narcotrafic a été présenté. Est-ce que ce sera le bon cette fois-ci ? Nous serons avec le spécialiste de la grande criminalité, Fabrice Rizzoli, qui sera dans ce studio. Ça vous fait réagir ? Je vous attends au 32-16, et 17h27.
RMC, Apolline Matin.
Dans une poignée de secondes, il sera 7h30 et c'est l'heure du journal, le journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Solène, des passagers envisagent de porter plainte contre Air France.
Après l'atterrissage en urgence de leur avion pour Ajaccio samedi à cause d'une impressionnante panne moteur, on en sait plus sur le bulletin dérobé au Louvre en octobre. 8 bijoux estimés à plus de 88 millions d'euros. Et puis allez-vous offrir un smartphone à vos enfants pour Noël ? On va entendre des parents qui hésitent.
Une plainte contre Air France pour mise en danger de la vie d'autrui.
Et plusieurs passagers ont eu la peur de leur vie samedi en voyant des flammes sur une des ailes de leur avion. Cet Airbus A320 parti de Paris en direction d'Ajaccio a atterri en urgence à Lyon. Au bout d'une demi-heure de vol, une dizaine de passagers dénoncent l'absence de considération d'Air France et envisagent de porter plainte. Rachel Sadodine et Victor Joannin.
Alors que l'avion survole la vallée du Rhône, après un début de vol très calme, les passagers sentent soudain d'énormes vibrations. Certains voient même une aile de l'avion en flammes. Marianne était à bord.
On n'était pas serein. Certaines personnes ont commencé à pleurer. On sentait qu'il y avait un petit moment de panique pour certains. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai fait un mail d'adieu à mon mari parce que j'étais vraiment dans une angoisse folle.
En réalité, le moteur n'a pas pris feu. Il a été victime d'une rupture technique, un pompage selon les experts comme Xavier Titelman, consultant en aéronautique.
C'est juste les gaz d'échappement qui reprennent feu derrière. C'est quelque chose de banal, de pas grave, de tout à fait maîtrisé. Et même si c'était arrivé au milieu de la Méditerranée, l'avion aurait pu continuer à voler pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il arrive sur un aéroport.
Une panne extrêmement rare, mais maîtrisée par un personnel entraîné. L'ancien pilote Jean Serra explique que l'enquête se poursuit désormais pour tenter de savoir ce qui a causé cette défaillance du moteur.
Quand est-ce qu'il a été monté, comment il a été vérifié et tout ce qui s'ensuit pour savoir si tout a été fait dans les règles. Et nous aurons les résultats dans quelques semaines.
Aucune raison, selon ce spécialiste, de remettre en cause le modèle A320 d'Airbus pour le moment.
Le gouvernement réunit aujourd'hui les chefs des groupes parlementaires. Objectif, trouver un compromis pour pouvoir voter un budget avant fin janvier. Après l'échec de l'adoption du projet de loi finance vendredi, le Premier ministre va aussi présenter ce soir sa loi spéciale pour assurer la continuité des finances publiques. Un nouveau porte-avions pour la France, pour illustrer la puissance de notre nation. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir à Abu Dhabi, qui a donc confirmé la construction de ce porte-avions nouvelle génération à propulsion nucléaire, attendu pour 2038, il succédera au Charles de Gaulle, un chantier à plus de 10 milliards d'euros qui devrait employer jusqu'à 4000 personnes à Saint-Nazaire. Deux mois après l'impressionnant cambriolage au Louvre, on en sait plus sur le butin dérobé par les voleurs. Nos confrères de BFM TV ont pu consulter les retranscriptions des images de vidéosurveillance de la ville de Paris. Plus de 8000 diamants qui coûteraient près de 88 millions d'euros. Cassandre Brault.
Oui, le commando est parti d'une cité d'Aubervilliers à scooter et à bord d'un utilitaire blanc. Ce véhicule est ensuite stationné au sud de Paris. Les malfaiteurs retournent après à Aubervilliers, récupérer le camion nacelle qui servira un peu moins d'une heure après aux casses du Louvre. Selon les informations de BFM TV, 8482 diamants et d'autres pierres précieuses ornaient les 8 bijoux volés par les cambrioleurs. Le commando est ensuite retourné dans le sud de Paris chercher le mystérieux utilitaire blanc avant de s'évaporer dans la nature. C'est ce véhicule qui aurait pu servir à transporter les bijoux n'a jamais été retrouvé. Les quatre membres présumés du commando ont depuis été mis en examen. L'un d'eux a expliqué avoir été contacté avant le cambriolage par une mystérieuse équipe de deux personnes à l'accent slave. Mais à ce jour, ces éventuels commanditaires du CAS n'ont pas été identifiés.
En Australie, une semaine après l'attentat antisémite qui a fait 15 morts à Sydney, on n'en sait plus sur le parcours des tireurs. Les deux hommes se seraient entraînés en Australie avant l'attaque et auraient fait des repérages sur la plage de Bondi. C'est ce que révèlent des documents judiciaires parus aujourd'hui. En France, les agriculteurs toujours mobilisés sur les routes. Aujourd'hui, une vingtaine d'actions étaient encore recensées dans le sud hier sur l'A63 près de Bordeaux, l'A64 entre Toulouse et Bayonne ou encore l'A75 en Lozère. Mais aucune grosse perturbation du trafic n'a été signalé. Plus que 3 jours avant Noël, et peut-être que parmi les parents qui nous écoutent, certains ont décidé d'offrir un smartphone à leurs enfants. En France, le premier smartphone est offert en moyenne à 11 ans et 4 mois, selon une étude de Ipsos. Un dilemme pour les parents, c'est ce qu'a constaté Lucas Laubert pour RMC.
Le sac plein de cadeaux, Philippe finalise ses achats de Noël. Raphaël, son fils de 11 ans en classe de 6e, rêve d'un téléphone au pied du sapin et il fait tout pour le convaincre.
Tu peux faire plein de trucs, jouer à des jeux, regarder des vidéos. Tous mes amis en ont un et c'est trop bien.
Le papa, lui, hésite.
Ça pose clairement question, ouais. Est-ce que le fait de refuser un téléphone, c'est pas aussi marginaliser Raphaël? En tout cas, là, pour Noël, on s'est mis d'accord et ça sera pas là.
Triste.
Un peu, ouais.
Parfois, les deux parents ne sont pas d'accord. C'est le cas de cette maman qui comptait faire ce cadeau à sa fille de 11 ans, Ellie.
Le papa, il a dit non, aucune question, on va pas le faire. Et j'ai dit ok.
Alors pas de smartphone, mais...
Elle aura un petit téléphone basique, comme ça elle peut nous appeler ou contacter au cas d'urgence.
Une bonne solution pour Axel Dessin, qui accompagne les parents sur ces questions avec son programme Internet sans crainte. Pour elle, l'accompagnement de l'enfant doit être central avec un premier téléphone.
Si au départ, on regarde ensemble que l'enfant a une utilisation équilibrée, qui sait aussi s'arrêter, peu à peu en fait, on l'accompagne vers l'autonomie. Et on sera beaucoup plus rassuré ensuite quand son enfant sera seul avec cet équipement à l'extérieur.
Un conseil selon cette experte, commencer à utiliser les réseaux sociaux ensemble et seulement à la maison pour un apprentissage progressif.
En badminton, exploit hier de Christo Popov, qui devient le premier Français à remporter les World Tour Finals, l'équivalent du Master de tennis en badminton. On écoute la réaction du numéro 8 mondial.
Vu qu'il y a pas mal de choses nouvelles maintenant, beaucoup de choses historiques, on est très content de casser des barrières et de faire des choses historiques. Je suis content évidemment d'être la première personne et je pense que dans les années à venir, il y en aura d'autres. En tout cas, je l'espère parce qu'on a la France est grandi, on a de plus en plus de bons joueurs. C'est quelque chose d'incroyable. Si on avait dit il y a 15 ans qu'on allait avoir déjà deux personnes dans le top 10 de France en simple homme, ça aurait été impensable alors qu'on n'a jamais eu déjà dans le top 20. Maintenant, on a aussi trois dans le top 15 avec mon frère aussi. Donc ça, franchement, c'est incroyable.
Hier, c'était aussi le premier jour de la Coupe d'Afrique des Nations avec une victoire du Maroc 2-0 contre les Comores. C'était à suivre sur RMC, radio officielle de la CAN 2025. Aujourd'hui, trois rencontres au programme. Mali, Zambie, Afrique du Sud, Angola et Égypte, Zimbabwe. Là aussi, à suivre en direct sur RMC.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Deauville, 13h55.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori est le numéro 13, Dampy, et leur outsider est le numéro 16, Uchenan.
C'était le journal et à 7h36, on part tout de suite au 32-16. Le ski. Mais oui, vous l'entendez parce que ça y est, il y a de la neige et on va quand même essayer de rêver un petit peu avec vous. Éric Brèche, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président du syndicat national des moniteurs de ski français, le fameux moniteur en pull rouge que l'on voit partout sur les pistes. Les vacances de Noël débutent à peine. Et elle s'annonce comment, du coup, la montagne ?
Ça s'annonce très bonne. Depuis début décembre, on a eu des bonnes chutes de neige fin novembre et début décembre. On a pu préparer tous les manteaux neigeux et les domaines skiables. Et depuis le mois de décembre, on voit une attirance importante de la montagne. Et les vacances de Noël sont là pour le confirmer avec une augmentation assez sensible des réservations en avance par la clientèle française et internationale.
Une augmentation. On avait l'impression que le ski, c'était en perte de vitesse. Mais non, il y a toujours de l'engouement et de l'engouement populaire, hein. Dans les petites stations, partout.
Partout, j'allais dire, la moindre bosse enneigée, elle attire. C'est 50 000 semaines de cours de ski vendues en avance par rapport à l'année dernière à date. Toutes les semaines sont en augmentation. Ça veut dire que les gens veulent venir à la montagne, se préparer en avance. Et on essaye de mettre des outils à disposition pour que justement on puisse construire son séjour et ne penser qu'à passer un très bon moment en famille.
Donc côté enfant, c'est très famille. En fait, c'est très famille, ces vacances. Et vous, effectivement, du côté des cours pour enfants, on s'en rend évidemment compte. Donc tout est plein, des petits jusqu'aux grands.
Oui, c'est sûr que notre première notion, c'est l'apprentissage en toute sécurité du ski et ses disciplines dérivées. C'est aussi la découverte et l'encadrement. Et à un moment donné, c'est donner les codes à tous les enfants pour qu'en plus, derrière, ils puissent se mouvoir en toute sécurité et en toute autonomie.
Donc, il y a de la neige sur les Alpes du Sud, il y a de la neige sur les Pyrénées, il y a de la neige sur le Massif central aussi. Il reste un morceau des Alpes pour lesquels il n'y a pas encore de neige. Vous avez bon espoir ?
Non, il y a à peu près de la neige partout parce que, comme je vous l'ai dit, il avait neigé en abondance dès fin novembre, début décembre. C'est vrai que là, nous avons un épisode un peu plus chaud, mais le manteau neigeux, pour l'instant, continue à perdurer, ce qui fait que les gens pourront venir en toute tranquillité, venir passer un bon Noël.
En termes de budget, il reste des endroits où c'est abordable, le ski ?
Oui, c'est bien sûr. Il y a des stations qui permettent d'avoir des budgets plus relatifs que d'autres, mais ça c'est comme dans tout secteur d'activité. Donc on peut trouver sans problème une tarification adaptée sur des domaines skiables peut-être plus petits ou qui permettent justement d'offrir, j'allais dire, quelque chose de plus raisonnable que peut-être sur des sites un peu plus internationaux auxquels effectivement les prix sont
un peu plus les prix vers le haut. Donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Éric Brèche, nous donner un petit goût de montagne. Et vous qui nous écoutez, appelez-nous au 3216, nous dire si vous pouvez partir en vacances ou pas et à quoi ressemblera votre Noël à vous. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et au 32-16 qui fait réagir ce matin, c'est notamment pas de budget, pas de guichet, la prime Rénov qui est à nouveau suspendue à partir du 1er janvier. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour, comment ça
Benoît,
va
Benoît, ça va très bien. Benoît, chauffeur poids lourd dans la Manche. La fin de ma prime Rénov, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ?
Bonne nouvelle.
Ah ouais, pourquoi ?
Mais c'est pas le rôle des impôts d'acheter des fenêtres pour les particuliers, d'acheter une nouvelle chaudière. Après, c'est pas non plus le rôle des impôts des Français de payer une prime de Noël, sachant qu'on est un pays laïque. C'est pas le rôle des impôts de payer des vacances avec les vacaf. En fait, on paye tout dans ce pays. Donc c'est hallucinant.
En fait, vous, Benoît, vous vous dites, effectivement, mais je vous ai eu plusieurs fois déjà en ligne, on sent vous, vous êtes assez libéral, vous vous dites, on bosse beaucoup, on paye des impôts, ok, mais à un moment, il faut arrêter la politique du chèque.
Bah, c'est ça, en fait, parce que l'État nous prend environ 70% de nos revenus si on cumule tout.
Oui, si on rajoute donc, la TVA, les... ouais.
Bah, entre le super brut et le net, il y a déjà à peu près 50%. Mmh. Après, il y a la TVA, les taxes spécifiques sur les carburants, sur l'électricité et sur tout, en fait. Donc, rien qui nous prendrait juste même 40-50%, on vivrait là déjà largement mieux, en fait.
Donc, pour vous, le bâtiment doit se débrouiller avec l'offre et la demande, quoi, classique.
Ouais, mais il faut aussi que de l'autre côté, l'État arrête de nous faire les poches.
Alors, sinon, j'ai envie de vous dire que ce que je trouve quand même particulièrement compliqué dans cette histoire, Benoît, dans l'absolu, c'est la question d'ailleurs que je posais tout à l'heure, est-ce qu'on peut continuer à avoir un secteur qui vit quasiment sous perfusion ? Mais en même temps, l'État dit qu'il va y avoir ces aides. Donc quand il dit qu'il va y avoir, c'est normal que tout le monde se projette dedans. Ou alors il fallait dire dès le début que les règles du jeu avaient changé.
Ben, après, on peut dire on n'a plus de pognon et on arrête de filer du pognon à tout le monde, en fait. Après, est-ce que vous pouvez poser une question pour moi, là, au...
Allez-y, laquelle ?
Au budget.
Ouais, laquelle ?
Enfin, j'en ai même deux, en fait.
Ouais, une déjà.
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une austérité d'État plutôt qu'une austérité du peuple ?
C'est ça. C'est-à-dire, en fait, que ce soit l'État qu'on dégraisse plutôt qu'effectivement d'augmenter les impôts. Promis, je lui pose comme ça. Merci, Benoît qui nous appelait donc de la Manche. Il est 7h42. Et dans un instant, quelques jours après la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, encore un nouveau narcomicide, comme on dit désormais, ce week-end. Un homme connu des services de police pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Bonjour Fabrice Rizzoli.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la grande criminalité et fondateur de l'association Crime Halt. Est-ce que le nouveau parquet national anti-criminalité peut vraiment améliorer les choses ? Il y a ce nouveau plan narcotrafic, est-ce que ça va vraiment changer les choses ? Suivez l'argent, dit désormais le ministre de la Justice. Ce nouveau parquet qui débute ses travaux dans 15 jours, je vous pose la question dans un instant. Il est 7h42, vous-même qui nous écoutez, appelez-nous au 3216. Est-ce que vous témoignez ? Est-ce que vous voyez autour de vous le trafic de drogue gangréner les territoires ? J'attends vos témoignages.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 16 magistrats, 13 greffiers pour traiter les affaires les plus graves dans 15 jours. Début du parquet national anticriminalité. Bonjour Fabrice Rizzoli.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste de la grande criminalité que l'on reçoit régulièrement ici. J'aime vos lumières. Et vous nous accompagnez pour essayer de comprendre ce monde de plus en plus complexe du narcotrafic. Vous êtes fondateur de l'association Crime Halt. Ce week-end, nouvelle fusillade encore à Marseille. Un homme de 22 ans qui a été tué, un autre blessé dans le quartier du Mail, dans le 14e arrondissement. 18e victime liée au trafic de drogue à Marseille. Est-ce le signe à nouveau de l'impuissance de l'État ?
Non, et notons quand même que c'est une très très bonne nouvelle la mise en place de ce parquet anti-crime organisé. La critique serait que même dans son élaboration, on parlait de 31 magistrats et qu'on va en avoir que 17. Et que vous m'avez déjà invité, que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'on risque d'avoir un problème de moyens, comme on a un problème de moyens structurels pour lutter contre le trafic de drogue dont vous parlez. Si en plus on ajoute le fait qu'il y a déjà 316 dossiers, si on en croit nos confrères de Blast, qui sont déjà dans les tuyaux pour que ce nouveau parquet...
Ils sont déjà sur la table de ce parquet, voilà, qui n'a pas encore débuté.
Voilà, il y a déjà 300 dossiers et moitié moins de magistrats que ce qui était prévu par le document de préparation. Donc là, on va avoir un problème de moyens. Disons quand même qu'on voit bien que tous les efforts qui ont été faits récemment à Marseille... sur la direction de monsieur Nicolas Besson, par exemple, une cellule anticorruption. Okay. Mais depuis tous les efforts qui sont faits, 1 million en cash saisi dans un camion en 2024, jusqu'à 2,5 millions saisis, dont 55 lingots d'or saisis qui partaient en blanchiment pour l'Italie.
Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que vous
on
parlez
voit qu'il y a
de
du
l'argent.
Progrès quand même.
Vous parlez de l'argent.
Voilà.
Vous parlez pas que des régulièrement.
Voilà.
On nous parlait jusqu'à présent des saisies de drogue, que ce soit dans le port du Havre, que ce soit à Marseille. Là, on parle d'argent.
Oui.
Parce que précisément, et c'est l'objectif de ce nouveau parquet national anticriminalité, c'est notamment, comme on disait en Italie, suivre l'argent.
Oui. Follow the money. reconnaît que avec la création de la grâce, que depuis déjà 15 ans on commence à faire, mais là il y a une vraie poussée donc de la part de l'exécutif. Nous l'avons accompagné grâce à des lois que nous avons obtenues, comme la confiscation obligatoire. Mais c'est vrai que maintenant il va falloir changer carrément de paradigme, de manière de faire. À chaque fois qu'on ouvrira une enquête pour trafic de stupéfiants, assassinat, il faudrait faire en même temps l'enquête patrimoniale. Ça ne sera pas frais à chaque fois si on n'a pas assez d'officiers de police judiciaire, assez de magistrats. Mais quand on le fait, ça marche. Encore une fois, un million cash saisi dans une camionnette. Et 8 millions en tout, si on compte les 55 lingots d'or, et les 2,4 millions cash saisi cette année.
Et là, vous parlez de l'argent physique.
Oui.
Il y a aussi la saisie des biens.
Oui.
Qui commence à se faire, y compris avec des nouveaux partenaires, en quelque sorte. C'est-à-dire que Dubaï, par exemple, qui était considéré comme le paradis des narcotrafiquants, qui partaient là-bas et qui dépensaient leur argent.
Oui.
Dubaï ne veut plus du tout avoir cette image-là. En tout cas, semble-t-il, est en train de coopérer avec la police française.
En effet, M. Darmanin a bien raison de dire qu'il a récupéré 82 appartements à Dubaï qui appartenaient à des trafiquants. Ils seront vendus et la somme sera partagée entre les deux États. C'est en général la pratique qui se fait, en tout cas en Europe. Et surtout, il dit, les propriétaires de ces biens mal acquis ne percevront plus leur loyer. Et ça, c'est très très bien de le faire. Et vous avez raison de dire qu'il faut faire de la coopération internationale, car beaucoup d'argent sale va dans les pays étrangers selon un système de blanchiment extrêmement simple et en effet extrêmement compliqué à lutter contre, puisque parfois l'argent liquide ne sort pas du pays.
Alors quand vous dites que c'est à la fois simple et complexe, c'est ça qui est fou, c'est qu'on se rend compte que en effet il y a cet argent avec des entreprises, parfois même des entreprises un peu façades de BTP, et puis il y a ce dont on parle régulièrement, c'est-à-dire le blanchiment d'argent dans le commerce du coin, l'épicerie, le barbershop, le kebab. Comment ça marche? Je n'ai toujours pas compris, moi. Pardonnez-moi, mais je suis très naïve. Je vois effectivement des quartiers où fleurissent ce genre de commerce et je comprends que ce sont des blanchisseuses. Comment?
C'est du blanchiment dans la mesure où une personne possède un commerce légal et que l'argent cash du trafic de stupéfiants va être mis dans la caisse et on va déclarer un chiffre d'affaires supérieur à la réalité.
En fait, on va faire semblant qu'on vend beaucoup de kebabs.
Oui.
Et donc, on rentre beaucoup de chiffre d'affaires.
Laissez-moi donner un exemple précis à Nantes qui a été jugé grâce au GIR, Groupement Interministériel de Recherche. Donc ici, c'était la gendarmerie. À Nantes, un barbershop déclarait 800 000 euros de chiffre d'affaires par an. Sachant qu'un salon de coiffure dans cet endroit, c'est 90 000 euros par an, en moyenne. Hein.
Okay.
Donc, pour faire autant de coupes, il faut en faire toutes les minutes, 24 heures sur 24 et pendant un an. Donc, c'est du blanchiment. Là, on saisit le commerce. Si c'est le commerce, il n'y a plus beaucoup de valeur. On vend le bien s'il y a un bien, etc. Et donc là, on récupère l'argent mal acquis par un système de blanchiment, comme vous dites, par le commerce de proximité.
Mais j'imagine que tous ne font pas quelque chose d'aussi grossier. C'est-à-dire qu'effectivement, 800 000 euros pour un commerce qui d'habitude fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, là, c'est quand même assez gros et très visible.
C'est pas visible parce que ça ne pose pas de problème d'ordre public. Il n'y a pas de clients. Salon de massage à Paris, il n'y a pas de clients qui rentrent. Le problème, c'est qu'il vous faut un officier de police judiciaire qui se met devant et qui constate qu'il y a zéro client pendant une semaine. Il vous faut un officier de police judiciaire qui va faire tous les comptes sur un an, les tableaux Excel, les logiciels, etc. Il va falloir faire la preuve économique qu'il s'agit d'une opération de blanchiment. Et là, en général, quand la preuve économique arrive au tribunal, c'est gagné, mais ce n'est pas facile à faire et pourtant ça vous paraît simple.
Quel est l'intérêt de Dubaï, par exemple, d'accepter de renoncer à cette espèce de statut de paradis pour narcotrafiquants?
Je pense qu'il y a une espèce de d'image qu'on veut s'acheter, qu'on n'est plus un paradis fiscal. Dans l'esprit de Dubaï, c'est juste le libre commerce total, presque zéro impôt, aucune contrainte. Mais si on arrive à leur démontrer que c'est l'objet du trafic de stupéfiants, alors ça peut les aider à gagner en image.
Vous y croyez, j'ai l'impression quand même, à ce nouveau fonctionnement, cette nouvelle manière de traquer désormais, notamment l'argent, à ce nouveau parquet national anticriminalité. C'est ce qui nous manquait.
Il fallait un nouveau parquet pour pouvoir gérer des affaires au niveau national. Mohamed Amra s'évade en Normandie, mais il a Il est accusé, d'avoir tué à Marseille. En même temps, il est en contact avec des grossistes au Maroc, en Espagne. Et il a des investissements à Dubaï. Il nous fallait un parquet national pour ce type d'affaires. En ce qui concerne Follow the Money, il y a beaucoup déjà de parquets qui le font très bien. On a cité Marseille, il y en a d'autres. Je vous ai donné un exemple à Nantes. Ça se fait déjà, mais il va y avoir absolument un problème de moyens.
Il n'est pas trop tard.
Ah, il n'est pas du tout trop tard. Et si on assèche les finances, on n'arrêtera pas le trafic de stupéfiants. Il y aura toujours des consommateurs et des vendeurs. Mais avec d'autres éléments, on évitera, par exemple, des victimes. Comme 52 homicides lors d'une guerre entre clans Yoda des Z-Mafia en 2023 et des victimes innocentes, car je rappelle que des innocents meurent. Mehdi Kassessi en dernière date.
Le frère d'Amine Kassessi. Merci Fabrice Risoli, donc spécialiste de la grande criminalité, fondateur de l'association Crime Halt. Il est 7h52. Un peu de légèreté parce que justement on approche de Noël. On approche à toute vitesse de Noël et il vous manque peut-être quelques cadeaux à trouver. On a décidé de vous aider. Louise Salé est avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour Apolline.
Ce matin, quelle est la valeur sûre que vous nous recommandez pour nos cadeaux de dernière minute?
Eh bien, ce sont ces jeux de société indémodables. Vous les avez peut-être tous chez vous, Monopoly, Uno, Cluedo. Mais en fait, ils s'adaptent, ils se renouvellent et ce sont toujours des jeux qui cartonnent. Et ça, c'est assez incroyable.
Et vous nous le racontez, preuve à l'appui, puisque vous êtes venu dans ce studio avec ces jeux de société. Et à tout de suite, il est 7h52.
RMC, Apolline Matin.
Avant de découvrir les meilleurs cadeaux à faire pour Noël, le bonus RMC. Ce matin, Victor, vous nous parlez du véritable marathon d'un artiste pour ses enfants de carrière.
Eh oui, Gims, le chanteur et ses 5 concerts en 4 jours. Ça a commencé vendredi, ça se termine ce soir avec un doublé assez rare le samedi. Concert à 20h, oui, mais avant ça, il y en avait eu un premier à 14h dans la même salle, la Paris Défense Arena. Eh oui, Paris Défense Arena, pas n'importe quelle salle, la plus grande d'Europe. Ces 4 jours de concert, c'est 200 000 spectateurs et ce n'est pas sa seule performance de l'année. La chanson Ciel que vous entendez, c'est la plus diffusée sur le web en 2025 avec plus de 250 millions d'écoutes.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de faire des cadeaux. Il est 7h55. Et toute la semaine, Louise Salé nous aide pour les cadeaux de dernière minute de Noël et les cadeaux notamment indémodables. Bonjour Louise.
Bonjour Apolline.
Des objets que l'on trouve sous le sapin depuis plus de 20 ans, mais que l'on continue à ouvrir avec grand bonheur, des valeurs sûres qui n'ont pas pris une ride. Ce matin, Louise, vous avez choisi les jeux de société best-seller qui traversent les âges.
Oui, alors Apolline, vous avez plutôt Milborn, Cluedo, Monopoly.
Un bon vieux Monopoly, moi. Bon vieux Monopoly des familles.
Ça tombe bien, c'est celui qui marche très fort. Et vous, Victor?
J'étais plutôt Milborn quand j'étais petit.
Et ça fait combien de temps que vous y jouez?
Oh ça fait 45 ans.
On compte plus, ça fait énormément de temps. En fait, ce sont des jeux indémodables qu'on connaît tous. Et ces joueurs que j'ai rencontrés au bar et magasin de jeux de société, The Good Game à Paris, nous en parlent.
Généralement, dès que je reviens voir ma famille, souvent, c'est Milborn, même Pictionary de temps en temps.
Donc moi, c'est le Monopoly, le Uno, et j'aime bien jouer à Risk de temps en temps aussi avec ma famille.
J'y joue beaucoup avec mes parents lors de fêtes, etc. Enfin, ça nous amuse toujours autant, et on le fait très souvent encore.
Pourquoi ça marche si fort?
Alors ça ravive des souvenirs, c'est pas prise de tête, on connaît par cœur les règles, on les a jamais oubliées. Et le directeur du magasin, Martin, confirme qu'il y a une vraie demande pour ces jeux historiques.
Il y a tout à fait un côté nostalgique et puis aussi une certaine simplicité qu'on retrouve, qui fonctionne bien, des mécaniques qui reviennent tout le temps. Ce sont des indémodables qui continuent à bien marcher, même aujourd'hui.
Alors, lequel est en tête du classement?
Eh bien, commençons par la star, ça tombe bien, c'est parce que c'est votre préféré. C'est le Monopoly qui fête cette année ses 90 ans, toujours en tête des ventes des jeux de plateau en France. Ce succès, c'est parce que Monopoly arrive à se renouveler, d'après Frédéric Toth, qui est analyste chez Circana, un cabinet qui décrypte les dernières tendances de marché.
La meilleure vente reste le Monopoly classique, qui fait partie de tous les foyers. Mais on va trouver aussi cette année le Monopoly Stitch qui vient d'arriver. C'est l'année Stitch, mais on va trouver Monopoly Pokémon pour la première fois. Et puis même le Monopoly carte bancaire. qui s'adapte aussi aux mœurs de notre société. Donc on aime bien payer en sans contact. Ben voilà, Monopoly le fait aussi.
Alors je vous ai rapporté le Monopoly classique, de Paris avec sa rue de la Paix. Mais est-ce que vous savez, Apolline, quelle est la première ville du premier Monopoly ?
Je sais pas, Chicago, non, c'était pas ça, non.
Non,
rien à voir.
Non, rien à voir. C'est un peu compliqué. C'est Atlantic City,
ah ouais,
qui est une ville en fait en dessous de New York et qui était le lieu de résidence de Charles Darrow, celui qui a commercialisé le Monopoly dans les années 30, hein, juste après la crise de 29, parce que, eh bien, pour s'enrichir, il fallait jouer et il fallait en rire. Et le jeu est vraiment déclinable à l'infini. Certaines personnes s'amusent même à collectionner les différentes éditions.
Alors, il y a d'autres marques historiques de jeux qui se renouvellent.
Oui, absolument. Je vous ai ramené le Milbourne Green. Alors, on roule tout simplement en voiture électrique, okay, et on se recharge sur une borne électrique. Pour le Uno, vous avez le Uno Extreme, vous avez qui est en fait un distributeur automatique de cartes. Vous avez le Uno avec des cartes plus 10 à mettre sur le jeu de ses adversaires. Le Uno est même plus vendu en France en 2025 que le Monopoly. Je pourrais en citer d'autres, le Cluedo, le Trivial Poursuite, Harry Potter, hein, par exemple.
Et parmi tous les cadeaux qu'on offre à Noël, les jeux de société, ils se font donc une place de choix, hein.
Oui, absolument, de plus en plus. Selon Frédéric Toth du cabinet Circana, le chiffre d'affaires dans la catégorie jeux de société et puzzle est en hausse de 29% cette année par rapport à 2020.
On a vu une augmentation des ventes de jeux de société et de puzzle pendant le confinement, où les familles en fait achetaient des jeux pour poser des écrans, pour pas se retrouver en face des actualités un petit peu moroses et anxiogènes. D'ailleurs, c'est en France où on dépense le plus en jeux de société dans toute l'Europe. C'est vraiment une exception française.
Extraordinaire. On a hâte d'être effectivement sous le sapin. J'aime beaucoup le risque aussi.
Oui,
un bon vieux risque des familles, ça peut être bien sympa. Il est 7h59. Merci beaucoup, Louise, de nous accompagner dans le choix des cadeaux. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.